Donc en fait, à partir du chapitre 26, on a commencé une nouvelle série, c'est pour ça que je résume. Au chapitre 26, on a expliqué l'importance de combattre la dépression et la négativité. Donc on a commencé le sujet, parce que là on est en plein milieu. On a expliqué qu'il y avait plusieurs types de déprime, plusieurs types de gens qui n'étaient pas bien. Donc notre but, bien sûr, c'est d'avoir la simcha. Comme j'ai écrit dans le texte du SMS, en fait, le but du cours d'aujourd'hui aussi, c'est d'expliquer comment on peut avoir la simcha dans la teshuva. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, excusez-moi, je n'ai pas oublié.
La simcha dans la teshuva.
Dans la tête de beaucoup de gens, la teshuva, c'est synonyme de moment qui est très triste. Et c'est sûr que c'est triste, parce que bon, quand on pense à sa verante, qui n'est pas triste. Et donc automatiquement, on n'a plus la simcha. Et c'est là que va venir ce pérec, la fin du chapitre 26 et le chapitre 27, qui va expliquer que même quand les choses vont pas bien, et même quand d'un côté il y a des choses qui doivent me rendre déprimé, il faut quand même garder la simcha. Mais je vais quand même résumer rapidement ce qu'on a expliqué dans le chapitre 26. Chapitre 26, on a expliqué la chose suivante. On a dit qu'il y a un grand principe, que lorsque tu as deux personnes qui se battent, qui sait qui va gagner? C'est pas forcément le plus fort. Celui qui va gagner sera celui qui est le plus déterminé. Si on dit qu'il est le plus déterminé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui est le plus besimra. Et donc, c'est comme ça qu'il avait introduit le chapitre 26 en disant, il n'y a rien de plus important que la simra. Quand on n'est pas besimra, même si on a beaucoup de connaissances, tu as tout ce que tu veux, un zombie, le tsaré, qu'est-ce que tu veux de toi? Ça, c'est l'introduction. Maintenant, il a dit, il y a plusieurs types de personnes qui peuvent être déprimées. Et à chacun, on va y répondre pourquoi il ne doit pas être déprimé. Première possibilité, on a dit, si une personne est triste parce qu'il a eu des malheurs qui lui sont arrivés dans la vie. Par exemple, Dieu préserve, c'est quelque chose qui était lié à Bané, Khayé ou Maisonné. Donc, les enfants, la Parnassa ou la santé. Vous vous rappelez, on avait parlé même de ça autour du jeune qui était Niftar. Alors, on explique comment garder la simcha. Alors, on avait dit comme ça. On avait dit, il faut se rappeler, c'est écrit « Ashre agever asher teyaserenu ya ». Heureux est l'homme que Dieu éprouve. Seulement, comment on a dit le mot Dieu? On a dit « Yudke ». Pourquoi? Parce qu'on a dit, il y a deux façons comment le nom de Dieu se dit. Il y a une première façon quand tu dis Yudke Vavke. Ça veut dire que c'est du bien en haut et ça s'est exprimé comme du bien en bas. Mais il y a des fois, on dit que le mot Yudke. Ça veut dire quoi que le mot Yudke? Ça veut dire que c'est du bien, mais que ça s'est pas exprimé comme du bien en bas. On le voit pas comme du bien. C'est pour ça qu'on dit Ashre Hagever Asher Teyaserenu Yudke. Heureux est l'homme que c'est Yudke qui l'a éprouvé. Sous-entendu, on doit avoir la Emouna. Que tout ce qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu est forcément du bien. Ah, pourtant, on le comprend pas. Pourtant, nous, on le voit comme du mal. C'est pas parce que je le vois comme du mal que c'est du mal. Et ça, on avait expliqué longuement, je parviens dessus.
On peut pas le voir, on peut bon, le sentir.
C'est juste un résumé, c'est pas le thème d'aujourd'hui, de toute façon. C'est juste un résumé. On avait expliqué que les kaboul et besimra, c'est ce que dit la Gemara, que de la même manière qu'on a une mitzvah de remercier Dieu sur le bien, on a une mitzvah de remercier Dieu, Dieu préserve sur un malheur. Et qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Les kaboul et besimra, ça veut dire qu'on doit le recevoir avec la simra. Donc ça, c'est la première catégorie. Première catégorie, c'est une personne qui est déprimée à cause des malheurs matériels qui lui arrivent. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit, ça, il n'a pas de raison d'être... Enfin, c'est pas qu'il n'a pas de raison. Personne ne peut parler à sa place. Mais on a dit, il faut se travailler pour garder quand même la simcha. Et au contraire, on a dit que la vraie simcha, c'est ces gens comme ça qui l'ont. Nous, c'est facile d'être besimcha. Quand il n'y a pas de malheur, c'est facile d'être besimcha. Mais quand une personne comme ça, il passe par des moments difficiles et qu'il se travaille pour être besimcha, ça, c'est une vraie simcha d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première catégorie. Bon, ça, pour ceux qui veulent, on a l'enregistrement sur le site, vous pouvez revoir, on a fait au moins deux cours que sur ça. Après, on avait terminé en disant qu'il y a une deuxième catégorie de déprime. C'est pas les gens qui sont déprimés à cause des malheurs qu'ils ont eus. C'est les gens qui sont déprimés, comme on avait expliqué, parce que mille d'Ishmaïa, parce qu'ils sentent que spirituellement, ça n'avance pas. Ils sentent que ça n'avance pas. Il est déprimé de sa vérote, il n'est pas bien, il n'est pas content. Alors qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit, c'est très simple. On a dit, il y a deux possibilités. Si je commence à penser à mes avérotes en pleine journée, alors que je suis pas en train de faire tchouva, rien du tout, etc., c'est pas le mois des louls, c'est rien du tout, et tout d'un coup je commence à penser à mes avérotes, il a dit, biyadoua, c'est évident, c'est sûr, que c'est une tarboula, c'est une combine du yetzara pour me faire tomber. Le yetzara, il veut me déprimer. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, viens, on va te faire penser à tes avérotes. Au moment où je pense à mes avérotes, je me dis, c'est bien, t'as vu, je pense à mes avérotes, je vais faire tes tchouva. En vérité, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait dit, c'est comme un businessman. Que si maintenant, en plein milieu de l'année, il commence à faire un bilan, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est horrible, c'est pas bon. C'est comme ça qu'on se casse la figure. C'est pas le moment de faire le bilan. Il y a un moment pour le bilan, et ben c'est là que tu feras le bilan. Faut pas se retourner en arrière, faut avancer. Et c'est pour ça qu'il avait dit qu'en vérité, c'est un piège du Yetzer Hara. C'est un piège du Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme ça en plein milieu d'un mercredi après-midi au aucun rapport, 14h. Il dit, viens, on va penser à la vera que tu as fait hier. Quel rapport, mon pourquoi tu penses à ça maintenant? Il a expliqué que penser à ces averotes doit être dans un moment qui est programmé. C'est quoi le moment programmé? Par exemple, le Kriyat Shema avant de dormir, par exemple, le mois des Louls. Ça, c'est un mois de bilan, pas de problème. Et même là, il faut penser à faire teshuva sur ce qu'on a fait et tout de suite après, repartir sur de nouvelles décisions pour repartir, pour avancer. Il ne faut pas rester dans le passé. Ça, c'est une idée qu'on trouve souvent dans le Tania. Il ne faut pas rester, ressasser le passé. Il y a des gens, tu les vois toute leur vie, te ressassent leur passé. Et c'est des gens qui sont déprimés. Et honnêtement, quand on les écoute, est-ce qu'on a envie de parler avec eux? Tu n'as pas envie parce qu'ils t'angoissent quand tu leur parles. Eux, ils sont angoissés, ils véhiculent une angoisse, tout le monde est angoissé, personne n'a envie de leur parler. C'est pas bien. Donc déjà, on te dit, même si c'est une bonne chose pour laquelle tu penses à tes avérotes, déjà, ça doit être dans un moment qui est programmé. Et même quand c'est programmé, keep it short, fais le court, ne reste pas trop de temps, fais ce que tu dois faire et apprends d'avance. C'est pareil, la même chose, par exemple, on est le mois des Louls, on va avoir Rosh Hashanah, Yom Kippour, on va penser à nos avérotes. Il faut penser à nos avérotes, il faut penser à ce qu'on a fait de pas bien, il faut le réparer, mais il faut pas trop penser à ça. Il faut plutôt penser à qu'est-ce que je vais faire pour que ça se reproduise pas. D'ailleurs, il y a un mot du Rabbi Rachab qui disait comme ça, qui disait que les gens pensent que le jour de Kippour, on fait teshuvah sur la averot. Mais c'est ce que tout le monde pense. On pense tous comme ça. Il dit en vérité, c'est une erreur. Quand on analyse les textes du Rambam, Maïmonide, et même ça vient de la Gemara, et bien en vérité, la veille de Kippour, on fait teshuvah sur le passé. Mais le jour de Yom Kippour, on doit déjà être en train de penser comment sera le futur. Exactement. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le Kol Nidré, le Al-Khet qu'on va faire la veille de Kippour, ça c'est on pense au passé. Je demande à Dieu pardon sur le passé. Mais dès qu'on rentre dans Yom Kippour, on a déjà la tête qui est dans l'avenir. Il faut déjà penser à l'avenir. Je me rappelle quand j'étais en Israël, il y avait un rav qui nous avait enseigné ce perek et qui nous avait dit comme ça. À l'époque, il y avait la guerre, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait la guerre en Irak. Les Américains, il y avait la guerre en Irak. Et bon, c'était une guerre qui était... Non, pas la guerre, je parle de la deuxième. C'était au début des années 2000.
Quand les Américains ont envahi l'Irak.
C'était au début des années 2000. Et bon, à cette époque-là, c'était une guerre qui n'était pas facile. Ils cherchaient Saddam Hussein, c'est une guerre sanglante, etc. Et tout. Et nous, quand on voyait ça, on se demandait quelle va être la fin. Et je me rappelle, il y avait un rav qui nous avait dit, pour illustrer ce perek, il avait dit, vous croyez que les Américains, ils sont en train de penser à la guerre? Ils ne pensent plus à la guerre, les Américains. Ils sont en train de penser à ce qui va se passer après-guerre. Alors qu'on était en pleine guerre. Et c'est vrai, il y a des journaux qui parlaient de ça.
Comment sortir
ça veut dire que la guerre, il l'avait déjà prévu avant. Et maintenant, il pensait déjà comment on va gérer après la guerre. Parce que c'est ça, en vérité, quelqu'un qui est haram. Je fais teshuva, mais et après? Celui qui est haram, c'est celui qui pense déjà au moment où il fait teshuva. Qu'est-ce que je vais faire pour que ça ne se reproduise pas? Ça, c'est une bonne teshuva. Comme il dit, parce que Rambam, il dit comme ça. Rambam, il dit, Maïmoné, il dit, c'est quoi une bonne teshuva? C'est harata al lehavar, ve kabbala al lehaba. Traduction. Une bonne teshuva, c'est un regret sur le passé, et une bonne décision pour le futur. Ça veut dire, celui qui fait teshuva en pensant qu'au futur, mais il regrette pas le passé, c'est pas bon. C'est pas une teshuva. Celui d'un autre côté qui regrette que le passé, il dit, je regrette d'avoir fait ça. Mais qui prend pas des décisions concrètes pour faire en sorte que ça se reproduise pas, c'est pas une teshuva non plus. Une bonne teshuva, c'est quand j'analyse le passé et je réfléchis comment je peux faire pour que dans le futur ça se reproduise pas. Ça c'est une bonne teshuva. Donc en d'autres termes, pour résumer, on a deux catégories de déprime pour le moment. On a une troisième qui va arriver. Hein. Première catégorie, c'est une personne qui est déprimée à cause du plaisir des malheurs qui lui sont arrivés. Bah, il faut se dire que c'est un travail à se travailler sur soi pour garder la simra, même si c'est très difficile. Deuxième catégorie, celui qui est déprimé de ses averot. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben, on lui dit que tu n'as aucune raison d'être déprimé maintenant, parce que c'est pas le moment. Si c'est programmé, dans ce cas-là, bon, fais le cours et c'est terminé. Si c'est pas programmé, tu n'as aucune raison d'y penser. Et je vais vous dire quelque chose de très important, ce qu'il a dit. Il a dit, si par exemple, je suis en pleine journée, aucun rapport, c'est pas le mois de loup, aucun rapport, et que je commence tout d'un coup à penser à ma verrotte, il dit, repousse cette pensée de ta tête. C'est un ridouche, quand même. Je veux dire, imaginez, en pleine journée comme ça, lundi après-midi, je suis là en train de penser à la verrotte que j'ai fait hier soir. Je dis, c'est bien, attends, t'as vu, en pleine journée, je suis en train de penser à la vera que j'ai fait. Qu'est-ce qu'elle a dit de Tania? Il a dit, repousse cette pensée de ta tête. C'est le Yetzara qui est en train de chercher à te faire tomber. Il veut te déprimer. Donc ça, c'était la deuxième catégorie. Voilà. Ça, c'était juste pour faire un petit résumé, pour rentrer dans le bain. Maintenant, on va parler d'une troisième catégorie. Et là, je pense que dans la troisième catégorie, on va s'identifier beaucoup plus. Bon, les deux catégories d'avant, c'est les catégories qu'on comprend. Ça veut dire les gens qui ont des malheurs dans la vie, les gens qui ont fait beaucoup de fautes et qui les rend déprimés. Bon, Alvec, on s'est déprimé de nos avérotes. C'est un niveau, ça. D'accord? Là, on va parler d'une troisième catégorie. Et je pense que cette troisième catégorie, c'est une catégorie qui nous parle beaucoup plus. C'est quoi? Cette troisième catégorie, c'est quand on est déprimé, pas parce qu'on a fait d'Averot, pas parce qu'on sait on fait ce qu'on peut. Voilà, bah, au Hachem, on sait qu'on fait ce qu'on peut. Et c'est pas qu'on se compare aux autres, mais chacun, il sait qu'il fait ce qu'il peut. Déprimé d'Averot, je sais pas si on est déprimé d'Averot. On fait ce qu'on peut. Alors, de quoi on est déprimé? Vous savez de quoi on peut être déprimé? On peut être déprimé quand on sent que ça tourne dans le vide. Qu'on se bat tout le temps pour les mêmes choses et que ça n'avance pas. C'est pas que je suis déprimé, que j'ai peur que quelqu'un vienne me punir parce que je fais d'Averot, il va me frapper. Ah, rien à voir, c'est pas. C'est très profond, au fond de moi. Je sens que chaque année, arrive la même chose, Rosh Hashanah, Kippour, Madedou, etc. Et chaque année, les mêmes choses, les mêmes histoires, les mêmes tchouvas, etc. Et à un moment, quand tu réfléchis, tu prends un peu du recul, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Avec qui je joue? Alors tu dis, j'en veux pas à Dieu. Bon, Dieu est. Dieu m'a fait le mitzvot, je fais ce que je peux. J'en veux à personne, mais. Je m'en veux à moi. C'est même pas que je m'en veux. C'est même pas qu'il s'en veut. C'est qu'il est déprimé. Il est déprimé parce qu'il sent que ça n'avance pas. Et c'est là qu'on va arriver à une question que tu as posée très 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 souvent dans le cours de Tania, Michael. Une question que tu posais, tu disais, mais à quoi ça sert tout ça? C'est quoi le but? C'est quoi son but? On va avoir le début. On va avoir le début de la réponse ici. Parce que c'est ça, c'est pour ça qu'il déprime en vérité. Pourquoi il déprime? Il déprime parce qu'il se dit, à quoi ça sert ce que je fais? Chaque année, je dis, je fais teshuvah, sincère, je recommence plus. Et bon, je sais très bien que ça va recommencer. Alors, à quoi ça sert? Parce que c'est pas une perte de temps.
Ma question, c'était.
À quoi il crée? Voilà, pourquoi il crée tout ça? Exactement. Alors, je dis, on va avoir un début de réponse. Quand la réponse finale sera dans le chapitre 36.
Moi, quand je joue au Monopoly, je sais pourquoi.
Exactement.
Je veux gagner la rue.
Il y a un but. Il y a un but. Quand il y a un but, il y a un but. Mais quand tu sens qu'à chaque fois, imagine-toi que voilà, à chaque fois tu escalades, et à chaque fois, une fois tu montes un mètre, deux mètres, trois mètres, mais tu te casses la figure à chaque fois. À un moment, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bon, bah, attends, on va arrêter l'escalader.
Ça décourage, quoi.
Tu vois? On n'arrive à rien. C'est ce qu'on appelle Yegia Larik. Yegia Larik, ça veut dire quoi?
Vide.
Ça veut dire se fatiguer à vide. C'est horrible. Et ça nous arrive à tous. On a tous des choses dans la vie dans lesquelles on bute. Maintenant, ça, c'est un nouvel type de déprime. Ça, c'est un nouveau type de déprime. Pourquoi? Parce que, dans le chapitre 26, de quoi on parlait, une personne qui est déprimée parce qu'elle a eu des malheurs dans sa vie, bon, ça, c'est une chose. On a parlé aussi d'une personne qui est déprimée parce qu'il a fait d'Averot. Bon, ça aussi, il est déprimé. Là, on parle pas de ça. C'est possible que c'est quelqu'un, bon, qui bat au Hachem, qui fait pas spécialement beaucoup d'Averot. Il a pas spécialement de malheurs dans sa vie. Mais il sent que, il travaille dans le vide. Il sent que ça n'avance pas. Et à un moment, il se dit, bon, bah, dans ce cas-là, puis ça n'avance pas, autant arrêter. Il sent que ça tombe dans le vide. Alors, une personne comme ça, hein, on a besoin aussi de lui parler et de lui expliquer comment il doit garder la simra. Alors vous allez me dire, mais on a déjà répondu au chapitre 26. Je vous dis, on n'a pas répondu au chapitre 26. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quoi l'idée à chaque fois qu'il revient au chapitre 26? Comme a dit tout à l'heure Avraham. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que même si une personne il a eu des malheurs dans sa vie, c'est quoi la réponse à ce qu'on lui dit? On lui dit, il faut se travailler. Il faut se travailler pour avoir la simra. Donc en d'autres termes, on lui dit, fais des efforts et tu finiras par y arriver. Mais celui-là, celui qui est dans les déprimes numéro 3, type numéro 3, il fait des efforts. Ça fait des dizaines d'années qu'il fait des efforts. Et ça n'avance pas. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est quoi ta réponse? Tu vas lui dire, avance quand même. Il dit, mais ça fait des années que j'avance quand même.
Il n'a pas où aller de toute façon.
Le fait d'une personne qui a fait d'Averot, tu lui dis, pense pas, avance. Bon, ça marche. Mais quand t'as une personne, tu lui dis, avance, mais il voit qu'il avance à tourner en rond. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'on raconte des bêtises? J'avance, mais je glisse.
Hein, qu'est-ce qui tourne en rond?
Il sent que, ça veut dire, il sent que, il se bat pour avancer, mais qu'il n'y a pas de progrès.
C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à avancer?
On sent qu'on se bat tout le temps sur les mêmes choses. Donc on n'avance pas.
Il a la méthode, mais il n'a pas le résultat.
Il vient tourner à vide, c'est très fort.
Tourner à vide, c'est-à-dire qu'il
vient pédaler dans la semoule.
Oui, c'est ça.
Il n'avance pas. Oui, et ça, c'est déprimant. Alors, c'est pas que c'est comptabilisé pour une faute. Il sait très bien que quand il va arriver en haut, Dieu va lui dire, t'inquiète pas, on sait que t'as fait ce que t'as pu, colacavote, bravo, etc. On veut pas des colacavotes.
Tu passes.
On veut pas des colacavotes. Moi, je veux que je sente que quand j'avance, ça marche. Quand je sens que ce que je fais, ça marche pas, c'est déprimant. C'est horrible. Chacun de nous, il a des choses dans la vie comme ça, des éléments dans lesquels il avance, mais il sent que ça marche pas.
Il voit pas un peu la lumière.
Quand on dirait des fois, tu fais un pas, tu recules deux pas. C'est horrible. Et lui, tu dis, je préfère ne pas avancer. Alors ça aussi, il y aura la réponse pour expliquer comment lui aussi ne doit pas être déprimé. Parce que notre but, c'est de ne pas être déprimé pour rester des simkra. Vas-y David, c'est quoi ta question?
Il voit pas un peu la lumière,
celui? Eh, mais ça veut dire, il voit un tout petit peu de lumière, après il voit deux fois plus d'obscurité.
Comme les vacances,
on n'a pas le sentiment d'avancer.
Il n'a pas le sentiment qu'il avance. comme il y a des fois des gens qui ont des problèmes comme ça aussi dans, par rapport à Dieu, par rapport au Shalom Bayit, par rapport à leurs enfants, ils sentent qu'ils avancent pas. Ils sentent que ça avance pas. Ils sentent que, je sais quoi, tu crois que tu avances un tout petit peu, tu vois, un tout petit peu de lumière, bah, tu te recasses la figure. Yeah. J'ai donné. Il est déprimé. Il sent que ça marche pas. Quand on sent que ce qu'on fait ne marche pas, vous savez, l'homme a été créé pour se fatiguer. On n'a pas peur de se fatiguer. Quand je me fatigue et je sens que mes fruits produisent quelque chose, enfin, pardon, que mes efforts produisent des fruits, eh ben, c'est difficile, je prends des vacances, mais j'ai une satisfaction. Mais quand il n'y a pas de fruits, c'est horrible. C'est une déprime. Qu'est-ce que tu fais avec cette déprime? Ce qu'on va expliquer maintenant.
Enfin, ce qui est horrible là-dedans, c'est de se réjouir alors qu'on est dans la peine, dans le truc, il vient de perdre son père, sa mère.
Non, ça c'était
son
père, les cours d'avant. Etc. C'était le cours d'avant.
Bon. Enfin, peu importe.
Non, mais ça on peut expliquer que dans des situations comme ça, je sais pas, au prochain, je suis pas passé par là, mais on peut expliquer que dans des situations comme ça, Dieu, il donne des forces pour retrouver une joie intérieure. Ça, on peut comprendre. C'est un grand événement, il y a des grandes forces qui vont avec. Je dis pas que c'est, personne n'a dit que c'est facile, et personne n'a dit qu'on réussira à 100%.
Non, mais, indépendamment que c'est facile, je trouve que c'est une contradiction. On est dans une grande peine. Ah, il faut te réjouir, hein, ça va mal, il faut te réjouir.
Pas te réjouir dans le sens, sois content. C'est les imbéciles, c'est qu'ils sont contents.
Pas au sens.
On tend pas l'autre joue chez nous.
C'est comment on arrive.
Oui, mais c'est ça.
Dans le sens, il faut être bécile. Dans le sens, garder une joie intérieure, une volonté d'avancer, une volonté de vivre. C'est ça. Garder la joie de vivre.
Je viens d'être confronté à un truc très très fort.
Vous avez raison. Mais c'est très dur. Personne n'a dit que c'est facile. Mais.
C'est contradictoire.
Mais chacun des trois types de déprime, parce que c'est très très structuré ce que fait Sylvain Morazaken. Il prend les problèmes, c'est vraiment, il va rentrer dans l'intérieur de l'âme. Pour chacun des problèmes, il va trouver une solution. Celui qui a dit il est déprimé parce qu'il a eu des problèmes dans sa vie, on lui dit toi, ta solution c'est de savoir que autant Dieu t'a donné les problèmes, enfin il lui a donné les problèmes à celui qui n'arrive jamais, autant il lui a donné la force de les affronter et de garder une joie intérieure profonde, joie de vivre. C'est pas facile, mais il y a ça. Celui qui a dit je suis déprimé à cause de ma vérote, on lui dit ne pense pas à ta vérote, c'est pas le moment. Maintenant on va parler de celui qui est déprimé parce qu'il sent que ça n'avance pas. Alors on va faire quelques lignes. Moi je veux bien.
Le troisième cas c'est quoi là?
Celui qui est déprimé parce qu'il sent que ça n'avance pas.
Ouais, d'accord.
Pas forcément qu'il a fait des fautes, il sent que ça n'avance pas. Et ça, honnêtement, je pense que on est pratiquement tous concernés par ça, surtout quand arrive le mois des Louls, quand arrive des mois comme ça. Parce que, déprimé à cause d'Averoth, on se sent religieux. Comme on se sent religieux, je dis bon, écoute, je fais ce que je peux, bah, au Hachem, etc. Bon, je fais teshuva, etc. Mais tu te sens pas déprimé d'Averoth. Faut vraiment avoir fait une big Avera pour être déprimé. Là, il est déprimé. Si c'est pas une big Avera, bon, il est pas bien, mais il est pas déprimé. Par contre, quand tu sens que ça avance pas, là, c'est vraiment déprimé. Ce qu'il va dire ici maintenant. Vehim Ha'atzvut, chapitre 27, Perek Ravzaï. Nous sommes à la page 18. Vehim Ha'atzvut, Eina Mida Gatavonot. Si la tristesse n'est pas à cause qu'il se soucie pour les fautes qu'il a fait. Et là seulement. Meir Urim Raim Vetaavot Ra'ot Shenoflot Marshavto. Il est déprimé à cause des mauvaises pensées et à cause des mauvais désirs qui viennent dans sa pensée. Alors vous allez me dire, mais c'est une avéra ça. D'accord? Vous allez me dire, c'est une avéra. C'est pas une avéra. Parce que, vous savez, je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui va penser à une avéra, il va penser à une avéra, il va penser à une femme par exemple. À partir de quel moment va commencer l'avéra? L'avéra va commencer au moment où il en pense, d'accord? Où il en pense volontairement. Mais s'il n'y pense pas volontairement, c'est-à-dire si maintenant la pensée lui est venue dans la tête, mais qu'il la repousse, il n'a pas fait d'avéra et au contraire il a fait une mitzvah. Seulement ce monsieur il en a marre. Il dit attends, avec tout ce que j'ai fait, avec la teshuva que j'ai fait, j'ai avancé, j'étudie la Torah, je fais des mitzvot, comment j'ai encore des pensées tordues comme ça qui viennent dans la tête? Comment c'est possible?
Mais tu l'as dit le cours précédent, ça.
Oui, j'ai compris. Non mais ça veut dire, ça le déprime ça. Parce qu'à un moment il se dit attends, maintenant j'ai avancé, bah au Hachem, je suis Shomer Shabbat, j'ai la Torah, j'ai les mitzvot, d'accord, etc. Et j'avance. Et pourtant ça continue toujours.
Mais tu dis qu'en...
Bah, au Rachel, j'ai encore le Tania, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Tu dis qu'il y a que les Benonis qui peuvent réussir à vaincre leur
Oui, mais justement.
Là, on dit que c'est, on n'est pas ni Benonis, ni
Tsadikim. On dit pas qu'on va lui en vouloir. Il sait très bien quand il va arriver, on lui fera le tapis rouge. C'est pas un tapis rouge qu'on veut.
Donc, on sait qu'on va être...
Mais il se dit, finalement, j'ai l'impression que je travaille à vide. J'ai l'impression que je fais des efforts pour changer, mais ça change pas.
Mais pourtant, tu l'as dit, il fait des efforts.
Alors, non. J'ai pas dit qu'il a raison. J'ai pas dit qu'il a raison. D'accord, j'ai compris. J'ai pas dit qu'il a raison.
Le fait d'avoir toujours un Yetzara, ça prouve que tu grandis.
Il y a pas de problème. J'ai pas dit qu'il a raison. Je dis pas qu'il a raison. Je dis la pensée qui lui vient dans la tête. Et la vérité, c'est déprimant. C'est-à-dire, quand une personne, par exemple, fait teshuva, pour ce qui arrive souvent, c'est quoi? C'est que je fais teshuva pour quitter une certaine chose. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à la quitter. L'action, l'acte de l'avéra, je l'ai quitté, je fais plus l'avéra. Mais l'envie de l'avéra, cette passion, cette envie, elle est toujours là. Et c'est horrible. Je dis, mais attends, ça y est, ça fait des années que j'ai arrêté ça. Pourquoi ça me revient encore dans la tête? Ce qu'il dit ici. Je relis dans les mots. Si maintenant la tristesse n'est pas à cause d'un souci d'Averot, non, c'est pas ça la tristesse. Et la merurim raim vetavot raot, c'est le fait de marchafto. Il est déprimé à cause des mauvaises pensées qui lui tombent dans la tête. Alors il dit comme ça. Il n'est deux possibilités. Ah, t'as un problème, t'as des pensées pas cachères qui viennent dans la tête. Alors je posais la question. Comment te viennent ces pensées? Allez, on a deux possibilités. Première possibilité, elles viennent quand il est pendant ses affaires. Ça veut dire en plein milieu des affaires, d'accord? Il est dehors, c'est le mois d'août, les gens reviennent bronzés, etc. Il fait très chaud, il voit des choses, il a des pensées, d'accord? Voilà. Donc c'est une première possibilité, d'accord? Non, mais c'est une première possibilité. Première possibilité. C'est possible, d'accord? D'accord.
Quand t'es occupé, tu peux pas penser à.
Bon, t'inquiète pas, ça dépend.
Ça fait partie des.
Tu n'es pas concentré à 100%, même dans ton boulot. Donc à un moment.
Tu peux penser à deux choses en même temps, c'est pas un problème.
Ok.
Je suis avec ma viande. Je pense pas à autre chose. Hein.
D'accord.
En tout cas, moi, personnellement.
Dans la chambre, il y a de la viande. Imagine, tu vendais.
Et des gens, ils pensent à la viande aussi.
Imagine, tu vendais une aide, par exemple. Il y a des
gens. Non, c'est façon de parler. C'est bon. Bon, en tout cas. Alors, je reprends le texte. Il dit comme ça. Donc, on a deux types de possibilités. Pourquoi, c'est quoi les pensées qu'il a? Première catégorie, il a des pensées qui lui viennent à l'esprit quand il est pendant ses affaires. Première possibilité. Deuxième possibilité. Il a des pensées qui lui viennent à l'esprit alors qu'il est en train de faire cette fille-là. Vous savez, des fois, tu as des pensées qui te viennent que quand tu fais cette fille-là. Des trucs, aucun rapport. Alors, pour chacun de ces deux, on va expliquer pourquoi il ne doit pas être déprimé. Point par point. Premier point, on avait dit celui qu'il a des pensées qui lui viennent à l'esprit, donc des pensées qu'il pensait depuis longtemps, il veut les éloigner, il veut plus être dedans. Et pourtant, il a des pensées comme ça quand il est en train de faire ses affaires. Il va faire ses devoirs, ses affaires, ses trucs, et il fait ses choses. Si ses pensées lui viennent dans l'esprit, alors qu'il n'est pas en train de faire sa avodat Hashem, il n'est pas en train de servir Dieu. Et là, il n'est pas dans ses affaires, il est au boulot, etc. Et bon, il y a des choses qui passent devant lui, et il a des pensées. Alors il dit, la Gemara Zaken, il dit, Adraba, au contraire. C'est extraordinaire ce qu'il va dire ici. Non seulement qu'il ne doit pas être déprimé d'avoir ses pensées, mais il doit être content.
Super.
Waouh. Content d'avoir des pensées tordues?
Ah.
Comment il peut être content? Il dit c'est très simple. Il dit parce que c'est très simple. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir de quel moment commence la vera?
La pensée.
Non.
Non, quand tu l'acceptes, la pensée, tu t'en.
Dès le moment où je décide de continuer la pensée.
Ah oui.
Et que je ne fais rien pour l'enlever.
Voilà.
Ça veut dire comme ça. Si j'ai une pensée qui me vient dans la tête, mais que je me suis pas rendu compte pendant 2 minutes, je pensais à un truc, aucun rapport, je suis parti, mon esprit s'est évadé. Est-ce que j'ai fait une avéra?
Non.
Ni une avéra, ni une mitzvah. À quel moment va démarrer le challenge? Dès que je me rends compte, à un moment, tu te reprends comme ça. Et là, tu réalises. Et là, deux options. Première option, je dis, ah, c'est sympa, je continue. Et ben là, je fais l'avéra. D'accord? Deuxième option, qu'est-ce que je dis? Je me dis, non, je vais me battre. Maintenant, je vais me battre. Peut-être je vais réussir, peut-être je vais pas réussir. Mais je me bats pour l'enlever. Si je me bats pour l'enlever, non seulement je fais pas une avéra, au contraire, je suis en train de faire une
mitzvah.
Tu dis la Gemara Zaken.
Même sans gagner, tu fais une mitzvah.
Oui, bien sûr.
Ah, super. Donc tu t'es battu, tu as perdu.
Parce que, et ce qu'il va dire ici, c'est écrit en schéma. Il te dit, mais attends, tu sais quoi? Toi, tu es déprimé parce que tu dois repousser des pensées. Mais sois content! Sois besimra! T'as une mitzvah à faire maintenant! T'as une mitzvah qu'un tzaddik est incapable de faire! T'as une mitzvah qu'un tzaddik, quand il lit la troisième partie du schéma, il dit, dans la troisième partie du schéma, c'est écrit, vous ne vous détournerez pas derrière vos yeux, etc. Il sait pas de quoi on parle. Il sait pas c'est quoi le problème des yeux, c'est quoi le problème. Il connaît pas ces choses-là. Il connaît de manière abstraite. Il sait que c'est écrit dans les livres. Mais il sait pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, je le vis. Alors il dit, de quoi t'es déprimé? Que la pensée, elle te vient. Mais si tu la repousses tout de suite, non seulement tu fais pas une avéra, au contraire, tu fais une mitzvah. Ce qu'il dit ici. D'accord? Il dit, adraba, au contraire. Yesh lo lismoar bechelko, il doit être content. Content de quoi? Il doit être content que on lui donne la possibilité de repousser une mitzvah négative et de faire une mitzvah positive. C'est quoi de repousser? Enfin, c'est qu'une chose négative. Bien qu'il y ait des pensées qui lui viennent dans l'esprit, ou il arrive quand même à repousser son esprit, déplacer son esprit, penser à autre chose. Vous savez ce que c'est la siardat? Ça veut dire déplacer. C'est-à-dire, tu penses à une chose, tu fais un effort pour penser à autre chose. Parce que c'est la seule façon. Parce que si je pense à quelque chose et je me dis, il faut pas que je pense à ça, ça marche pas.
Non, parce que tu continues à penser.
La seule façon, c'est de remplacer, par autre chose. Alors il dit, je dois être content que ça m'arrive. De quoi il est déprimé, ce Benoni, ce monsieur? De quoi il est déprimé? Il dit, mais attends, tu t'imagines, comment c'est possible que j'ai dépensé comme ça? Il dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire? Tu fais une mitzvah. C'est une mitzvah ce que tu fais. Les kayem, machenemar, vélo, alors j'y arrive. Les kayem, machenemar, vélo, tatourou. Et en fait, on lit dans le schéma. Vous savez, dans le schéma. On croit que dans le schéma, on parle des malachines, on se dit qu'ils vont parler des gens comme nous. Qu'est-ce qu'il écrit dans la troisième partie du schéma? Là-bas, c'est écrit Velo Taturu Achare Levafrem Veachare Enechem. Vous n'allez pas vous détourner après votre cœur et après vos yeux. Asher Atem Zonim Achareem, comme il dit ici, derrière lesquels vous vous dévoyez. Il dit, de qui tu crois qu'il parle ce pasouk? Tu crois qu'il parle des tzadikim? De qui tu crois qu'il parle ce pasouk? Ce pasouk du schéma, de qui il parle? Ve'en akatoum et d'abord des tzadikim. Ce verset ne parle pas des tzadikim, je parle des tzadikim du Tania. Pourquoi? Parce que les tzadikim du Tania, rappelez-vous, ce qu'on a expliqué dans chapitre 10, chapitre 11. Il n'a pas dit Tzara. Et c'est quoi la différence entre un tzadik parfait et un tzadik imparfait? Est-ce que le dégoût du mal est absolu? C'est tout. Mais il n'a pas d'avéraï, c'est pas ce que c'est. De qui tu crois qu'on parle dans la troisième partie du schéma? Quand on dit vous n'allez pas vous détourner après vos yeux, on parle des gens comme nous. On parle des gens que dès qu'ils voient des choses, leurs yeux s'allument. Et leur tête s'allume. C'est des gens comme nous qu'on parle. Et au contraire, il dit ne sois pas déprimé de ça. La Torah parle des gens comme nous. C'est très important ce qu'il dit le Tania. Et ça, je pense qu'une des parties, c'est une des particularités de la Chassidoute et même de la Chassidoute Rabbad. Dans d'autres lectures, d'autres approches, dès qu'une personne va venir voir un Rav, il va lui dire, je suis déprimé, j'ai des pensées d'Averot qui me dans la tête. On va lui mettre sur la tête. Cette personne va lui dire, tu finiras au Guéhinnom, et tout ce que tu as vu, etc., etc. Et on lui met sur la tête. Viens, l'approche de la Chassidoute Rabbad, il ne te dit pas du tout. Tu lui dis, tu dois être Bessimra, tout ça.
Là, il faut choisir son rabbin, quoi.
Mais attention, pas Bessimra de la Vera. Bessimra du fait que Dieu, il te donne la possibilité de faire mieux. Parce qu'il te dit, pour qui tu te prends? Tu te prends pour un tzaddik? T'es pas un tzaddik. Si t'étais un tzaddik, là, effectivement, tu dis, bon, je sais pas de quoi il parle, troisième partie du schéma. Troisième partie du schéma, elle parle pour des gens comme nous. Donc, dis, t'inquiète pas. Baruch Hashem, t'es en bonne santé. Baruch Hashem, ton cerveau, il est bien réveillé. Et c'est Baruch Hashem. C'est ce que chez nous, il faudrait voir des psychiatres, d'accord? Baruch Hashem. Et ben, voilà, il faut travailler avec, c'est comme ça. Ça sert à rien de vouloir faire comme si de, non, je suis pas comme ça. Tu resteras comme ça jusqu'à la fin de sa vie, c'est le concernant le rasin.
Oui, mais c'est souvent que ça se passe, ça. Mais. Souvent, ça se passe chez l'individu.
Mais il te dit, ne crois pas que ça va s'arrêter.
Ce combat.
Mais ne crois pas que ça va s'arrêter.
Mais
justement, ce qu'il te dit ici, ne crois pas que ça va s'arrêter. Et Dieu n'a pas prévu que ça s'arrête. C'est expliqué. Ah. Donc là, on va commencer à rejoindre ta question. Dieu n'a pas prévu que ça s'arrête. Ça veut dire que ne crois pas que pour être un bon juif, il faut qu'à un moment, t'arrêtes d'avoir des pensées comme ça. C'est pas ça être un bon juif. Un bon juif, c'est que même si les pensées me viennent dans la tête, quand même, je les repousse. Ça, c'est être un bon juif. Être un bon juif, ça veut pas dire que les pensées ne me viennent plus dans la tête. Ça, je maîtrise pas. C'est pas dans mon domaine, ça.
Donc, vous voyez? Donc, on dit là, merci mon Dieu de m'avoir permis de déceler l'erreur dans laquelle j'allais.
Non, ça, je sais l'erreur. Merci mon Dieu de m'avoir donné la possibilité d'accomplir une mitzvah négative.
Oui, mais pour accomplir la mitzvah.
Une mitzvah négative, qu'un tzaddik ne sait pas ce que c'est. C'est celui qui ne la connaît pas, cette mitzvah. Et moi, j'ai une mitzvah. Au passage. J'ouvre une toute petite parenthèse. Bien sûr. Bah oui. Dans le sens que j'ai l'occasion de faire une mitzvah. Ça, c'est une approche qu'on voit très souvent chez l'Admour Hazaken dans le Tania. On verra souvent, surtout dans les chapitres qui vont suivre. L'Admour Hazaken a toujours une approche. Il dit, quand tu veux analyser une situation, il faut analyser la mitzvah de la chose.
C'est ça. C'est comme ça que c'est tourné ici.
C'est vraiment comme ça. Je donne un exemple.
Comme ça, il a pris le sujet.
Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Une fois, Admour Hazaken, il a entendu sa femme qui est en train de parler. Et sa femme, elle parlait avec des amis à elle. Comme ça, il l'entendait. Et sa femme, elle a dit, mon mari dit ça. Mon. Elle a dit, moi. Ça veut dire qu'elle se l'a approprié. Et Admour Hazaken, il est entré en transe. Il a dit, mais tu t'imagines, pour une mitzvah que j'ai avec ma femme, elle dit, mon mari. Ça veut dire qu'elle s'est appropriée. Il dit, imagine-toi maintenant, toutes les mitzvot que Hachem nous a données. Ça veut dire que Dieu s'est approprié, on appartient à Dieu. Et il est parti dans une transe, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, l'Admour Hazaken, quand il regarde la chose, il dit, ne regarde pas ce que toi tu en penses. Bien sûr, moi, ce que j'en pense, j'aimerais que des pensées comme ça ne m'arrivent pas dans la tête. Et évidemment, on cherche à ne qu'elles n'arrivent pas. Il ne voit pas ce que toi, tu en penses. Regarde ce que la Torah en pense. Regarde le côté mitzvah de la chose. Et qu'est-ce que la Torah en pense? La Torah a prévu. La Torah, deux fois par jour, elle te demande d'en parler. Pourquoi tu crois que la Torah, le matin, le soir, te demande d'en parler? Parce qu'elle sait que tu es concerné par ça. Et elle sait que même si on l'a rappelé le matin, il faut rappeler le soir. Donc il n'y a pas de scrupule à avoir. Il ne faut pas se sentir mal de ça. Il faut se sentir mal quand j'arrive pas à le repousser. Enfin, quand je veux pas le repousser. De quoi? À son niveau.
À l'inverse. Il y aurait Torah, une voix d'Ametouna. Au contraire.
Par exemple. Bon, mais c'est à son niveau. Mais pour un tzaddik, c'est abstrait des choses comme ça. C'est abstrait.
Parce qu'il ne le vit pas.
Un exemple. Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un, je vois son corps. Je sais qu'il a une échama au fond de lui, mais ce que je vois avec mes yeux, c'est son corps. Le tzaddik, quand il voit la personne, ce qu'il voit, c'est la neshama. Il sait qu'il a aussi un corps, mais il voit la neshama.
C'est une question de priorité.
Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, bon, ça veut dire que nous, on regarde d'abord le matériel et le spirituel, on se l'imagine. Le tzaddik, il voit le spirituel et il s'imagine le matériel. Donc ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Le tzaddik, il sait pas, un tzaddik, quand il lit les troisième partie du shema, il sait pas de quoi ça parle. Nous, on le vit. Par contre, le tzaddik, quand il dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, quand il dit Ve'ahavta et Hashem Elokeinu tu aimeras Hashem, là, il sait de quoi on parle. Nous, ça, on comprend qu'il y a un niveau qui s'appelle l'amour d'Hashem, il faut essayer d'avoir ça. Bon, on essaye de comprendre. Si vous voulez, nous, on est plutôt troisième partie du schéma. Le tzaddik, il est dans la première partie du schéma.
Quand tu disais, je crois que ici, quand le Benoni maîtrise pas l'apparition de mauvaises pensées, c'est-à-dire que, ça, quoi qu'il arrive, une mauvaise pensée, elle n'arrive pas de facto comme ça. C'est qu'il y a un avant, un après, il y a quelque chose.
Tu n'en sais rien. Non, mais des choses, ça ne dépend pas de moi. Le bonhomme, il marchait dans la rue, il y a un truc qui est passé devant lui. Une personne. D'accord? Alors, voilà, bon. Il fait des efforts pour pas regarder, mais il a vu maintenant. Qu'est-ce qu'il fait qu'il passe?
Mais à ce moment-là, tu peux aussi te conditionner à dire, mais, je sais que dans la rue, elle est agressive ou je ne sais quoi.
Mais même s'il a vu.
Je passe devant le kiosque là où je m'assins, je sais que je passe à gauche, là, ce qu'on essaye de faire.
D'accord. Mais pas tout est conditionné.
Mais tu préfères,
il suffit d'une fois sur dix. Et je vais te dire quelque chose, c'est que des gens comme ça, c'est des gens qui sont tellement purs.
Mais t'es l'homme.
Non, mais je vais te répondre à la question. On va essayer de te rester. Les gens comme ça, c'est des gens qui sont tellement purs qu'une petite pensée, elle peut les déranger pendant des années. Quand c'est une personne qui a l'habitude de voir, que ses yeux sont habitués, etc., il faut vraiment, pour l'impressionner, il faut beaucoup. Mais quand c'est des gens comme ça, qu'ils sont habitués, etc., une petite pensée, c'est pas qu'ils vont y penser, mais que ça leur revient devant les yeux, c'est horrible, ça dérange. Ça peut leur revenir pendant des années. Tu comprends? Voilà.
Il faut plus que tu passes à gauche, là. Tu passes devant, comme ça tu fais la mitzvah de repousser
à chaque fois. Bon, d'un autre côté.
D'un autre côté,
il ne faut pas non plus en faire trop, tu sais. On dit qu'il y a des gens, ils marchent dans la rue, quand ils se cognent sur un poteau, ils disent désolé madame, c'est-à-dire qu'ils pensent aller aux femmes tout le temps. Et il y a des gens, quand ils cognent une femme, ils disent oh, je croyais que c'était un poteau. C'est-à-dire tout dépend où on a la tête, tu comprends? On peut avoir les yeux fermés, mais la tête ailleurs.
Mais alors, il dit pas là, par exemple, quand.
On parle du Benoni, déjà c'est un niveau, c'est-à-dire quand tu dis qu'il revient à la charge, la pensée haute, c'est-à-dire que finalement c'est quelqu'un qui, malgré tout, c'est pour cette pensée qui le dérange, quelque part que ce soit très exceptionnel, de manière à ce qu'elle revienne...
Ah non, justement, elle revient tout le temps. Enfin, c'est avec des fréquences qu'il ne maîtrise pas. Ce qui le dérange, c'est le fait, comment ça se fait que ça arrive encore? Je croyais que c'était révolu.
D'accord.
Ça le dérange, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on lui répond? Morazaki lui dit, tu ne maîtrises pas ça. Est-ce que tu peux maîtriser? Tu peux pas maîtriser. Toi, tu peux maîtriser de la repousser, mais tu peux pas maîtriser qu'elle arrive. Donc, non seulement tu dois pas être déprimé, mais au contraire, je dois être besimcha. Besimcha de quoi?
Dépendant de notre volonté.
Bien sûr. Je dois être besimcha de quoi? Il dit, parce que de qui tu crois qu'il parle ce pasouk? Quand la Torah, elle te dit, vous n'allez pas vous détourner derrière vos yeux, d'accord? Derrière lesquels vous vous dévoyez. Dévoyez. Tu crois qu'un tzaddik qui se dévoie? C'est qui se dévoie? Zonim, c'est dévoyé. C'est les gens comme nous. Et là, dans les mots, donc on va en prendre dans les mots. Et là, je suis au milieu de la page, mais bénonyme. C'est dans les bénonymes. Des gens, caillot de sebo, des gens qui sont comme lui. Je ne flim lo ir ureni uve marchafto. Des gens qui ont des pensées, d'accord, impudiques, qui viennent dans sa pensée. Ben, beheter, etc. Ça peut être des pensées permises avec sa femme, ça peut être des pensées interdites. D'accord, ça peu importe. Mais ça change pas, c'est quand même des choses comme ça. Ou que j'aime si yardato, mekayem lavzir. Lorsqu'il va réussir à nettoyer son esprit, il va accomplir cette mitzvah. Donc c'est une mitzvah ce que tu fais. C'est comme ça que le Morazak le voit. Bro, rabotez-nous, les Rachamim ont dit, Zichron Alivrach, dans la Gemara Kiddush, ils ont dit, Yasha velo avaravera, si une personne s'est assis et qu'il n'a pas fait une avera, je vais expliquer tout ce que ça veut dire, notnim lo sachar ki ilu asa mitzvah, on lui donne un salaire comme si qu'il avait fait une mitzvah. Ça veut dire quoi, hein? Lorsqu'une personne a une avera qui se présente devant lui, et qui force son yitzhara, et qui reste assis, et qui la fait pas, et ben on lui donne le salaire comme si qu'il avait fait une mitzvah, comme si qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, tu veux dire, mais moi j'ai rien fait, je me suis retenu. Mais non, on te dit, se retenir de pas faire une avéra, ça a autant d'importance que faire une mitzvah. Donc il dit, qu'est-ce que, de quoi tu te plains? Tu te plains que des pensées comme ça qui te viennent dans la tête? Mais c'est comme si tu as ramené le tefillin. Ça c'est l'approche d'Edmond Razaken. Repousser une pensée d'une femme qui vient dans la tête, c'est comme si tu as ramené le tefillin. Tu mets les tefillin, c'est une mitzvah positive. Eh ben, quand tu fais un effort de repousser la pensée, c'est comme si tu fais une mitzvah. C'est une autre façon de servir à Kadosh Baruch Hu.
C'est la différence fondamentale qui existe avec la loi de l'homme. Par exemple, si on te dit il ne faut pas faire, le fait de ne pas faire, tu n'as pas pour autant un,
alors, mais attention,
un salaire ou une satisfaction ou une mitzvah.
Mais d'après la Gemara là-bas, le salaire est seulement si, quand on dit le salaire d'une mitzvah négative, est seulement quand la mitzvah négative s'est présentée à moi et je la fais pas. Parce que sinon, une mitzvah négative, on en fait tous les jours. D'accord ? Aujourd'hui, on a tué personne, on a volé personne, vraiment, on a tout fait. D'accord ? En Hachem, une mitzvah négative, elle se présente lorsque elle se présente à toi et que tu ne la fais pas, là tu fais la mitzvah. Donc c'est ça en vérité.
Ils ont retenu de tuer quelqu'un.
Donc, exactement. Exactement. Voilà, il faut qu'il avait l'arme dans la main et qu'il soit retenu de tirer sur la gâchette. Là, il avait la mitzvah.
Mais il avait l'arme dans la main.
Il était armé. Donc. Il avait des raisons de le tuer, il s'est retenu.
Mais ça, dans la loi, on appelle une tentative. Et là, tu es puni.
Oui, non, mais non, tu n'as même pas dégainé.
Mais donc, non, mais les militaires, ils font tous les jours, mais des mitzvot, ils ont un...
Non, les militaires, ce n'est pas une avéra pour retirer. Ce n'est pas une avéra de tuer, ils ne font pas d'avéra. Pour faire la mitzvah négative, il faut qu'il ait une arme dans la main, il a envie de tuer quelqu'un, et il ne le tue pas.
Il se retient.
Donc, c'est une mitzvah qu'on ne fait pas, ça.
Non.
C'est tout. C'est tu vois, il se retient, tu vois, il a envie de cogner, il ne cogne pas. La Torah dit, on n'a pas le droit de frapper son ami. C'est écrit, on l'a fait dans la semaine dernière. Il n'a pas rattrapé. C'est quoi la mise de pas frapper? La mise de pas frapper, c'est quand j'ai envie de frapper et que j'allais frapper et je me retiens. Là, j'ai fait une mitzvah. Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe avec le Benoni? On se dit, c'est quoi la mitzvah? De quoi on parle dans le schéma? C'est fort quand même, parce que dans le schéma, je veux dire, on a parlé de l'amour de Dieu, on a parlé de l'amour, et juste après, de quoi on parle? Et on te retenait de pas penser aux femmes. C'est de ça qu'on parle. De tout ça, on a sélectionné que ça comme mitzvah. C'est le schéma, c'est ça qui parle le schéma. De qui tu crois qu'il parle le schéma? Il parle de ça, il parle de gens comme nous. Et donc il dit non seulement qu'il ne faut pas être déprimé, il faut être joyeux. Ah, tu dis dans le schéma, on parle de moi, je suis content. D'accord? Et il dit, Ve'ad Rabba au contraire. Là maintenant, il va taper très fort. Il dit en vérité, tu sais pourquoi tu es déprimé? Une personne comme ça, il est déprimé, il dit oui, mais comment ça se fait que des pensées comme ça qui me viennent dans la tête, c'est pas possible, d'accord? C'est pas normal. Tu dis non. Alors, je fais la dernière ligne. Valken, c'est pour ça. Pour tout le monde.
D'accord, non.
Ah, bien sûr, évidemment. Okay. Bah, ouais, t'inquiète pas, bien sûr, c'est la même chose. Valken, c'est pour ça. Tsarik, les smoach. C'est différent chez l'homme que chez la femme, mais bon, c'est. Valken, c'est pour ça. Tsarik, les smoach, bekiyum alav, kemo, bekiyum, mitzvah, tassé, mamash. C'est pour ça que quand tu as accompli la mitzvah négative, je dois être content comme si j'ai accompli une mitzvah positive. C'est quoi la mitzvah négative? C'est la mitzvah, hein, on a dit de ne pas. De ne pas penser, de tout mon esprit. Mais attendez, mais là il va rajouter un point. Exactement. Je suis content d'avoir résisté. C'est une mitzvah. Maintenant, là il va rajouter un point très très important, ce que j'ai en train de dire. Il va dire en vérité, tu sais d'où vient le problème? Tourne la page. Le problème en vérité, il est que c'est l'orgueil. C'est qu'il se prend pour un tzaddik.
Exactement.
Et comme il se prend pour un tzaddik, il se dit, mais comment j'ai pas envie de penser comme ça?
Comment ça se fait?
Regardez comme il déchire celui-là. C'est-à-dire, lui, il croyait, je suis pas bien du fait que j'ai des pensées comme ça qui viennent dans la tête. Il dit, ah, je suis un sadique. Et tu dis, mais d'abord, c'est bien que t'aies les pensées qui viennent dans la tête. Parce que quand tu le repousses, tu fais une mitzvah. Et en plus, pour qui tu te prends? Tu te prends pour un sadique, c'est pas normal, t'aies les pensées comme ça. Du coup, si tu dis, mais c'est pas normal, comment j'ai les pensées comme ça? Tu te prends pour un sadique. T'es pas un sadique. C'est normal, t'aies les pensées comme ça. C'est-à-dire, le gars, il est déprimé. Pourquoi il est déprimé? Parce qu'il est orgueilleux. Et comme il est orgueilleux, il pense que normalement, à ce stade-là, il aurait dû plus avoir ça. Donc il dit, ah, ça te dit comme je suis, comment je peux me penser comme ça? Il te dit pas du tout. Ve'adaraba, au contraire. Très fort, ça. Ha'atzvut imigasut haruach. Cette tristesse, cette déprime, vient de gasut haruach, vient le fait de l'orgueil. Il est orgueilleux. She'eino makir mekomo, qui ne connaît pas sa place. C'est écrit dans Pirkei Avot. Ezeu chacham hamakir et mekomo. C'est quoi le sage? C'est celui qui connaît sa place. Connaître sa place. Ne pas se prendre pour ce que je ne suis pas. Déjà, il se prend pour je ne sais pas. Après, tu te prends. C'est sans vérité le problème ici. Pourquoi il est déprimé, le bonhomme? Bon, au début, c'est noble. Il est déprimé parce qu'il se dit, comment ça se fait que j'ai des pensées comme ça qui viennent dans la tête? Mais après, il se dit, du style, comment ça se fait? Moi, je suis tzaddik. Donc, c'est incohérent avec l'image qu'il a de soi-même. Et ben, il dit, tu t'es trompé, t'as une mauvaise image de toi-même. Ce n'est pas ce que tu croyais. Parce que rappelez-vous que dans le Tanya, le Benoni, il a des pensées qui lui tombent dans la tête. Il repousse, mais il en a.
Mais il en a toute la journée.
Après, la fréquence, elle dépend des personnes.
Il y a tellement de tentations, tellement de choses, tellement de des idées qui viennent de partout.
Enfin, vous, M. Benita, vous réfléchissez beaucoup, donc on n'est pas comme vous.
Non, non, non. Non, quand même, non, mais enfin, bon, on voit...
On n'est pas à la retraite aussi, oui.
Non, non, mais combien même
c'est vrai.
Ça n'a rien à voir.
Bien sûr.
Dans un bureau, voilà, les gens qui travaillent, oui. Dans un bureau, voilà, il y a des tentations.
Hein. Partout, il y a des tentations.
Eh bien, voilà.
Le Yetzer Hara, il a assez d'imagination pour vous donner des idées
donc,
partout.
Donc, il y en a beaucoup dans la
en vie. Été, en hiver, il y a des gens qui disent en été, ils disent, ah, le Yetzer Hara, il m'attaque à cause de l'été, en hiver, ça ira mieux. T'inquiète pas,
non,
en hiver aussi, on aura
Yetzer Hara.
C'est
pareil.
Ça ira pas mieux en hiver, hein.
Non.
L'hiver, l'été, chacun a son Yetzer Hara qu'il faut. Seulement quoi? C'est une mitzvah. Ça veut dire qu'en vérité, une personne comme ça qui 10 fois par jour, il repousse, d'accord? Il a fait 10 mitzvot. 50 mitzvot, c'est extraordinaire.
Alors, comment fait-on pour la repousser?
Comment fait-on? Il faut penser à autre chose. Il n'y a pas d'autre solution.
Il faut penser à autre chose. Au verset de la Torah qui a étudié le matin.
Encore plus, si on peut penser à la Torah, c'est encore mieux. Rappelez, on avait expliqué que la Torah a une force de repousser, une force de se décupler. Mais même penser à des affaires. Penser à des affaires, penser à autre chose. Parce qu'on ne peut pas toujours penser à la Torah, défendre nos toilettes, etc. Alors qu'il faut penser à autre chose. Quand on a une pensée comme ça, il faut penser à autre chose. C'est la seule façon. Alors, il dit ici, donc, à Hatz, Sh'eino makir mekomo. Il dit, Ve'alken, c'est pour ça, Yera levavo, al-shelo el-rega tzadik. En vérité, très souvent, c'est à cause de l'orgueil. Comme le gars, il s'imagine maintenant qu'il est devenu grand rabbin. Hein. Dans sa tête, c'est un grand rabbin. Il dit, les gens ne le savent pas, mais moi, je suis un grand rabbin. Il faut le savoir, voilà. Moi, je le sais. Donc, comme il se prend pour un rabbi maintenant, il se dit, mais attends, comment quelqu'un comme moi, il est dépensé comme ça? Pourquoi tu te prends? Ça veut dire qu'en vérité, dès qu'on arrive à se recadrer, automatiquement, les choses prennent une proportion normale. Et ça, c'est une idée aussi sur laquelle l'Admor HaZaken insiste énormément dans la Chassidoute, le Emet.
C'est supérieur. Le Emet.
Rappelez-vous la question qu'on avait posée dans le premier chapitre du Tanya. On avait amené une Gemara. On avait dit que il y avait Rava qui était avec ses élèves, d'après une guitare, c'est Rabba, et il était en train de parler du tzadik Racha Benoni. Et on avait dit, Rabba, il avait dit, comme moi, par exemple, je suis Benoni. Rappelez? Et là-bas, il a posé la question, il a dit, mais comment Rabba peut dire qu'il est Benoni? Comment c'est possible? Ça rappelle la question? Il y a des gens qui vont répondre, ils vont dire, par anava, par humilité. C'est pas de l'humilité, ça. Ça, c'est un mytho, ça. Dire, je suis Benoni, alors tu penses que t'es tzadik, ça s'appelle être un mytho. On parle, il faut être vrai. Il faut que l'image que j'ai de moi-même corresponde le mieux possible à ce que je suis vraiment. Alors, ça, c'est l'approche de la Chassidout Rabad. Il y a d'autres approches. Il y en a qui vont dire le contraire. Ils vont dire au contraire, prends-toi pour quelqu'un de très très grand, comme ça, peut-être tu vas devenir quelqu'un de très très grand. Mais ça, c'est pas du tout, trois fois, je l'ai dit. L'approche de la Chassidout Rabad. Chassidout Rabad, il faut pas être mytho. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Ça veut dire que, il faut que l'image que j'ai de moi-même corresponde à ce que je suis. Et quand on arrive à être vrai, je vous garantis qu'on évite beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que celui qui pense être comme ça, alors automatiquement, il va s'accrocher avec les autres, parce qu'il dit pourquoi il me calcule pas à ma juste valeur, il va s'accrocher avec sa femme, avec ses enfants, etc. Parce qu'il se prend pour ce qui n'est pas. Donc automatiquement, quand il voit que le monde ne le perçoit pas comme il penserait que ça devrait être, ça l'énerve.
Alors il faut tout le temps se considérer en dessous des autres.
Non, j'ai pas dit ça. Non.
J'ai pas dit ça.
Considérer à sa juste valeur.
Si sa place est au-dessus de la moyenne, il faut bien qu'il.
Il faut se considérer à ce que je suis.
D'un autre côté,
ne pas admettre ses qualités, c'est pas bon non plus. C'est une fausse humilité. Parce qu'au fond de nous, on y connaît les qualités. Rappelez, je raconte une fois, c'est une histoire. On dit qu'il y avait une yeshiva comme ça, dans laquelle. Les élèves, quand leur rave, il leur a parlé, il leur a dit l'importance de l'humilité. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient, par exemple, dans une pharmacie. Et ils disent, bonjour monsieur, je vais acheter les chaussures. Donc, bien sûr, les gens, ils disent, mais si on ne vend pas de chaussures ici. Et donc, les gens, ils se moquent. Donc, les gens, ils se moquaient des diars, regarde, c'est les imbéciles. Et comme ça, il disait, ah, ils sont moqués de moi, voilà, ils sont moqués de moi, ils m'ont dit imbécile, je suis imbécile. Mais au fond de lui, il sait que c'est pas un imbécile. Qu'est-ce que t'as gagné là? Avec qui tu joues? Vous connaissez pas le mot du Rabbi Rachab? Rabbi Rachab, il dit comme ça. Il dit, quand on est petit, quand on est jeune, on croit qu'on arnaque le monde entier. Après, quand on grandit, on croit qu'on arnaque sa ville. Après, quand on grandit encore, on croit qu'on arnaque sa famille. D'accord? Après, quand on grandit encore, on croit qu'on peut en tirer comme ça progressivement. Et après, il a dit, quand on vieillit, on comprend qu'en vérité, on s'arnaque soi-même. Il dit, quelle est la...
Hein? C'est changé. C'est
et non, t'as justement. Ah. Il dit, quelle est la chorma d'arnaquer un imbécile? Ça, dans la chassidut Rabad, on insiste énormément sur le Emet.
Comment on répondait alors déjà avec Rabat dans l'histoire?
Ah, comment on répondait avec Rabat? On a répondu que, comme concrètement le Benoni, c'est une personne qui fait pas d'Avera, et que Rabat faisait pas d'Avera, Rabat il s'est dit, la raison pour laquelle je faute pas, c'est parce que concrètement ça s'est pas présenté à moi, parce que je suis tout le temps dans la Torah. Mais peut-être que dès que je vais quitter la Torah, ça va me revenir dans la tête.
Donc il se considérait comme un Benoni?
Oui.
Pour prendre garde, en fait.
Non, parce qu'il se disait, j'ai aucune preuve que je t'indique. Peut-être que la raison pour laquelle ça m'attaque, pas parce que je suis occupé, mais qu'en vérité c'est au fond de moi. Mais ça veut dire, on voit ici l'humilité. L'humilité qu'il avait, mais une vraie humilité, pas une fausse humilité. Une anavachel emet, une vraie humilité. C'est ce qu'il dit ici.
Tu dis que quand on étudie la Torah, il n'y a aucune pensée qui vient.
Non, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que la Torah a une force quand même de repousser les pensées. Une force extraordinaire que la Torah.
Un type, un monsieur qui étudie la Torah le plus longtemps possible, le plus souvent possible, sauf à part pour dormir physiologiquement et pas dépérir. Il a pas de pensée.
Le Yetzara, il s'arrange pour qu'il fasse des pauses.
Non, mais d'accord, mais imagine-toi que c'est Robocop. Il a pas de stop.
C'est difficile.
D'accord, il a indéniablement des pensées.
Attends. Non, mais quand on étudie la Torah, c'est...
Rien que pour rebondir sur le...
Il n'y a pas de mauvaise pensée quand on étudie la Torah.
Mais à un moment, tu ne seras pas dans ces conditions.
Une fois, il y a quelqu'un qui a posé la question à Admor HaZaken. Il y avait des pages de Gemara, comme ça on parle des choses un peu crues. Il a posé la question à Admor HaZaken, il a dit, j'ai des mauvaises pensées. Admor HaZaken, il a dit, comment tu peux avoir des mauvaises pensées de la Torah? Non, mais c'est vrai, ça. Alors, quand tu vois le côté de la Torah, il n'y a pas de mauvaise pensée.
Ça devient pur, en fait.
Ça devient pur.
Mais c'est un sujet qui s'est...
Vous savez, par exemple, je me rappelle une fois, il y avait un jeune homme qui était venu faire un sioum. Il avait, je crois, 14, 15 ans. Et il a fait un sioum sur Gmara Gittin. Et là-bas, la Gmara a dit à la fin, elle dit, alors si le mari dit ça, et si la femme, elle a fait ça, et si la femme, elle a trompé son mari, et il fait devant tout le monde, comme ça, il est en train de faire un sioum. Et les gens, ils rigolaient, parce que tu vois un jeune homme de 14 ans, Bachor Yeshiva, qui dit des choses qui choquent, tu vois, comme il dit par exemple, si le mari, il a trompé sa femme, sa femme a trompé son mari, mais lui, il voit le côté théorique de la chose. Il voit le côté Torah de la chose. Et il est pas du tout dérangé, parce que ça le dérange pas. C'est une étude. Ça va pas, c'est, on a tous fait la Yeshiva, etc., mais ça dérange pas du tout. Si tu vois le côté, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut sauter, c'est normal. Alors, on continue. Dis maintenant, Valken, c'est pour ça hier, allez va voir chez Nomad Regat Sadik, chez les Tzadikim et Vadaï, et Noflim Lahem, Irou Rechtout Kailou. Je suis au milieu de la page. Il dit en vérité, cette personne-là, pourquoi il est déprimé? Parce qu'il se sent un Tzadik. Comme il se sent un train de Tzadik, il dit, ah, j'ai appris dans le Tanya que les Tzadikim, ils ont pas de pensée tordue. Alors comment c'est possible?
Que moi j'en ai.
Ce qui se passe, c'est incohérent avec ce que je pense que je suis. Mais s'il savait la vérité, Iluayamakir Mekomo, s'il connaissait sa place, savoir qui il est. Chacun doit être à sa place. S'il connaissait sa place, Shehu rachok meod imadrekat tzadik. C'est pas qu'il n'est pas tzadik, il est très loin d'être un tzadik. Meod. Quand on dit meod en hébreu, ça veut dire meod, très loin. D'accord? Alors automatiquement, c'est sûr que automatiquement, il met les choses en proportion. Il y a un exemple que le Rav Yoel Kahn, dans ses commentaires sur le Tanya, il donne. Il dit par exemple, est-ce qu'une personne a une ambition de devenir grand et d'éclairer comme le soleil?
Sarkozy.
Non mais est-ce qu'il y a un homme, d'accord, qui a une ambition de devenir un soleil aussi grand que le soleil et d'éclairer le monde entier? Personne. Pourquoi personne? Parce que c'est improbable. Ça n'arrivera jamais. Donc, c'est quelque chose qui dans ma tête est improbable.
Non, ou être complètement fou.
Alors il dit la même chose, d'accord,
ouais,
il dit...
C'est le rôle de ma chère, ça.
Ou bien par exemple, dans un autre exemple aussi, il dit par exemple aussi, imagine-toi un Ani Maroud, ça veut dire un pauvre, mais pauvre de chez pauvre. Même pas dans ses rêves, il s'imagine de devenir le grand roi. Il s'imagine même pas, parce que c'est tellement improbable que ça n'arrivera jamais. Alors c'est la même chose, il dit à ce monsieur-là qui se prend pour un tzadik, il lui dit, tu vois, être tzadik, c'est comme si tu t'imagines de devenir un soleil. Laisse tomber, d'accord? Bon, Maintenant, là, on a touché un autre point. Est-ce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'ambition? J'ai pas dit ça. Mais avoir l'ambition, c'est une chose. Mais croire que je suis tzaddik, laisse tomber, connaître sa place. Il faut connaître sa place, c'est très important. Et ça, je peux vous dire que si on connaissait sa place, on aurait évité beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça arrive souvent, on voit des gens, par exemple, des fois le mari, il avance plus vite que la femme, ou la femme, avance plus vite que le mari. Et à un moment, les gens, ils avancent, ils se prennent pour un rabbin, ils se prennent pour un tzaddik. Et du coup, il largue tout le monde, etc. Alors, petit peu, pourquoi tu te prends? Au fond de toi, tu sais qui tu es, alors pourquoi tu te prends? Pourquoi tu écrases tout le monde? Pourquoi tu te prends? Quand on apprend à se connaître, automatiquement, on évite beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est ce qu'il dit, l'admor HaZaken. Il dit, celui qui est déprimé parce qu'il s'y dit, comment ça se fait que j'ai la vérote comme ça, qui vient dans la tête, et penser comme ça? D'abord, tu fais une mitzvah, et en plus, s'il y a une pensée comme ça qui vient dans la tête, sache que c'est une pensée qui vient de l'orgueil. Vehalvai, aya benoni velo racha. Voilà, ça c'est le mot. Ça c'est un mot très fort chez le chassidim. Halvai benoni. Halvai en hébreu, je sais pas comment on peut traduire halvai.
Je voudrais bien. Hein.
J'espère. Et si seulement. Ça veut dire à ce monsieur qui se prend pour un tzaddik, on lui dit, essaye déjà d'être un benoni, toute ta vie. Parce que rappelez-vous, même une personne qui faute une avéra par an, il a appelé rachat partiel. Il a appelé rachat à 0,01%, mais il est déjà rachat. Donc à ce monsieur qui se prend pour un tzaddik, on lui dit, tzaddik, tu n'es pas. Parce qu'il a dépensé. Déjà, alvaï benoni. Ça veut dire alvaï, si seulement tu arrivais à être benoni toute ta vie, c'est déjà extraordinaire. Vise ça déjà. Vise de devenir benoni. Afilou no kol yamav, afilou shahara, ne pas être rachat, ne serait-ce qu'un seul instant de sa vie. Essaye d'être déjà là. Arezot hi midat la benonim va avodatam. Ça, c'est la mida des benonim. Ça, c'est le trait de caractère des benonim. Le travail. L'irbosh ayetzer. Et là, il va rejoindre ta question. Quel est le travail d'un benoni? Toute sa vie, jusqu'à la tombe. D'accord? C'est se battre contre le yetzara et résister. L'irbosh ayetzer. De conquérir son yetzara. De résister. Ve'ahirur, aolem alev la mohar, quand il a une pensée qui lui monte du cœur à l'esprit. Ou la siar dato, mi la gamrebi menu. Il doit faire un effort toute sa vie de le repousser. Alors après, il aura plein de pensées. Ou veli troto bishte yadaim, il le repousser avec les deux mains. Kanis karleel, comme on l'a dit avant dans le chapitre 12. Alors après, vous savez, avec le temps, ça évolue. Par exemple, quand on est plus jeune, alors les pensées qu'il y a à l'esprit, c'est les pensées de jalousie. Après, quand on grandit un peu, c'est les pensées de plaisir. Après, quand on grandit un peu, c'est les pensées de kavod. Bon, après, ça évolue avec le temps, mais le moteur reste le même. C'est qu'à chaque fois, c'est le même moteur. C'est qu'à chaque fois, je suis pensé, d'accord? Voilà. À chaque fois, j'ai des pensées qui me viennent dans la tête. Pourquoi il a fait ci? Je pense ça sur l'autre, et je pense sur quelqu'un, et je fais une avéra. Je pense à une avéra. Qu'est-ce qu'il te dit, Shlomo Razakhen? C'est quoi la mida du Benoni? La mida du Benoni, c'est toute sa vie. Kol Yamav! Toute sa vie, c'est quoi sa mida? Sa mida, c'est de se battre contre son Yitzharara et de se battre contre une pensée. Donc chaque pensée compte. Vous voyez, là déjà, il a remis les choses en proportion. Donc quand on réfléchit à ça, déjà on n'est pas déprimé. Après, bon, la vérité qu'il a fait, il faudra faire tchouva, c'est une autre raison. Mais le fait d'être déprimé que ça marche pas, on te dit, ne sois pas déprimé que ça marche pas. Ne sois pas déprimé, non pardon, que t'as des pensées qui viennent comme ça. Le fait d'être des pensées qui viennent comme ça, c'est-à-dire que t'es pas tzaddik, et ça tu n'y es pour rien. On n'y est pour rien si on n'est pas tzaddik, c'est, voilà, c'est ça en vérité ce qu'il faut dire. Si je ne suis pas tzaddik, je n'y suis pour rien. C'est que ma neshama n'a pas été conçue pour le devenir. Et c'est tout. C'est vrai qu'on avait expliqué dans le chapitre 15 que si je force, je peux avoir une greffe de neshama tzaddik. Mais ça, c'est pour les gens qui font les greffes. D'accord? Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Alvaï, Benoni. Donc, il dit, mets les choses dans la proportion. Ne te prends pas parce que tu n'es pas, et automatiquement, tu t'iras bien. Et automatiquement, quand tu as une pensée comme ça qui vient dans la tête, ben, tu la repousses, et c'est tout. Donc, d'abord, je suis Bessimra, que je peux me retenir, et que je fais les mitzvahs. Et en plus, je sais que je suis Benoni, donc je suis pas déprimé, parce que je sais que je vais pas être triste. D'accord? Donc, faut pas être triste, exactement. Donc, faut pas être triste. Donc, si chaque année, chaque été, chaque mois d'Eloul, ça revient, etc., faut pas être triste de ça. Il faut se battre. Il faut pas être triste. Parce qu'on a été, on a été conçu pour ça. Seulement, là, maintenant, on arrive à la question. Hein?
Il tend la main pour faire une mitzvah.
Si, tu te dis, il faut penser à autre chose. Ah, voilà, là, il y arrive. Très bien, bonne question, c'est la question. D'accord. Seulement, là, il dit maintenant, il se pose la question, il dit, c'est vrai que tu rassures le Benoni. Tu lui dis, ne sois pas déprimé. Sache qu'en vérité, t'es un Benoni, que tu vas devenir un Benoni, quand tu vas te faire des efforts, hein, tu vas t'approcher de la Kadosh Baruch Hu, etc. Bon, d'accord, pas de problème. Si tu lui dis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc. Il y a un moment, le Benoni, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, mais attends, alors quoi? Ça veut dire que moi, toute mon aspiration, c'est d'essayer de devenir Benoni, d'accord? D'essayer de devenir Benoni. Et quand tu vois que t'arrives pas à devenir Benoni, parce que c'est quoi le Benoni? Le Benoni, c'est celui qui n'a pas du tout de pensée, de la vera.
Celui qui résiste 100%.
Voilà. Moi, je sais maintenant que je suis pas comme ça. Alors, quand je sais que je ne suis pas comme ça, alors à quoi ça sert d'aspirer à quelque chose que je sais que je ne viendrai pas? C'est-à-dire, déjà, tzaddik, c'est rayer de la liste. Ça, c'est déjà classé. Hein.
Au moins, la bouche
en non, au moins, c'est, ça, c'est classé.
Mais d'accord. Benoni aussi, c'est rayé la liste.
Même Benoni, parce que pour Benoni, pour être Benoni, il faut pas fauter, mais ne serait-ce qu'une seule Avera. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que le gars, il est passé par Kippour. Après Kippour, il a fait une Avera. C'est cuit pour l'année, c'est terminé. Il peut faire Tchouva, etc. et tout. On peut toujours, mais à un moment, hein, c'est pas qu'il est déprimé de se dire je suis un rachat. C'est qu'il se dit finalement, qu'est-ce que je vaux? À quoi ça sert? Donc, ça, c'est la bonne question. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il veut que tu vois? Et là, ce que dit ici le Admor HaZaken.
Vraiment, à quoi ça sert, on a compris. Chaque fois que je repousse, c'est une valeur.
Alors, justement.
De Dieu. Mais il faut donner aussi un outil pour pouvoir repousser 25 000 fois la même. Au bout d'un moment, tu baisses les bras.
Ça, c'est à la Torah. Je dis la Torah, etc. La Torah, vous avez des outils pour ça.
C'est quoi l'outil?
L'outil que la Torah m'a donné, c'est ma volonté.
Est-ce que Yannimara, qui je ne sais plus trop, qui disait que lorsque quelqu'un il arrive devant le mur, il s'est retenu 25 000 fois, et la 25 000 fois, il ne peut plus, on l'autorise à faire la vera. Est-ce que c'est vrai?
Autorisé?
Oui, tu changes de vie, tu changes d'habit et tu vas faire ta
verra
où tu veux.
Non, 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 c'est pas ce que dit la Gemara. Non, 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 la Gemara Shabbat, c'est une semaine de son mot. La Gemara dit comme ça, dit celui qui sent qu'il n'arrive plus à se retenir.
On parle de quelqu'un qui s'est retenu 25 ans.
Mais qu'il a un vêtement religieux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'il s'habille en noir. C'est pour ça qu'on l'habille en noir. D'accord, qu'il s'habille en noir. Et qu'il aille dans un endroit où personne ne le connaît, qu'il fait ce qu'il a à faire et qu'il revienne.
Pourquoi?
J'ai pas dit que c'est permis.
Si, c'est
ah, mais non!
Non, là, on parle de quelque chose qui est
non, c'est pas un conseil! Non, c'est qu'il en fait, voit, c'est qu'il voit qu'il va fauter, il va éviter le Khilul Hashem! Mais ça, c'est le pchat!
C'est.
Oui, ça, mais enfin, on fait en sorte que ça reste de la théorie, quoi!
C'est pas super mal! Ouais, tu peux aller aussi dans un autre pays, quoi! Tranquille!
Non, mais un autre pays où il n'y a pas de rabat, t'es mal barré. Je
rappelle avec mes frères toujours rigoler. Il y avait une fois un frère comme ça qui avait mis une chemise noire. Je sais pas pourquoi je vois, il avait un spectre, je sais pas pourquoi. Il était habillé tout en noir. On dit, ah, t'as eu. Oh, ça veut dire, il va aller ce qu'il va faire, il va enlever la kippa, tu vois. C'est pas le gars, il va venir avec les titis et tout, il va à la plage, il commence à regarder, je sais pas quoi. Il dit, attends. Bon, d'un autre côté, il faut mettre la kippa.
En fait, il arrive, en fait, on peut aussi. Non, c'est sûr, c'est pour éviter le foulage, d'accord. Mais il arrive un moment.
Mais il y a quand même un côté récent, il m'a dit, j'imagine, j'étais à la plage, et j'ai vu, il y avait quelqu'un avec les titis, il regardait comme ça, je dis, mais qu'est-ce que toi tu faisais à la plage? Il me dit, mais regarde.
Non, mais on peut aussi comprendre ce passage, c'est que. Si vraiment c'était interdit,
oui.
Rami jamais n'aurait permis quelque chose d'interdit complètement.
Non,
c'est... même à n'importe.
Rami, te... non, c'est pour limiter la casse.
Il te donne, au fait, il te donne une netza entre guillemets pour t'en sortir. Oui. C'est-à-dire qu'arriver au bout d'un moment, t'es obligé de dégringoler. C'est comme ce qu'on dit, Yerida, Torahalia. Tu dégringoles parce que t'en peux plus. Et ensuite, après, tu
je vais répondre par une anecdote. Ouais, ça me raconte, si Monsieur Nirsomon, c'est de Rabbi Hillel de Paritch. Il dit comme ça. Il dit que même si on a fauté, même si personne n'a fauté, il faut tout faire pour essayer de le garder pour soi. C'est-à-dire que ne pas enlever l'image qu'on a envers les autres. Pourquoi? Parce que l'image qu'on a envers les autres nous sauve beaucoup, finalement. Parce que ça te sauve que devant les autres, tu cherches à
être quelqu'un de bien.
Ça te maintient. Parce que si après tu enlèves ça, tu dis bon, de toutes les façons, je vais être honnête, donc je vais leur montrer qui je suis réellement, ça veut dire qu'après, t'as plus aucune retenue. Là, au moins, t'as une retenue. Quand tu sais que tu fais la bêtise quand t'es dehors, quand t'es caché, bon, mais quand t'es devant tout le monde, tu te retiens. C'est déjà ça. Ça retient.
Oui, c'est des cas extrêmes.
Donc. Voilà.
Alors, le devoir de émettre envers soi-même. Alors.
Le devoir de émettre envers soi-même, c'est de se dire que je ne suis pas tzaddik et que mon travail, c'est de chercher à être Benoni. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais attends, à quoi ça sert? Alors là, il y a un très très grand chidouche, c'est plusieurs chidouchim qu'on va prendre ici. On va commencer seulement aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine. Il y a plusieurs chidouchim qui va dire Yannimara HaZaken. D'abord, il te dit premièrement, moi je pense que quand je me bats, à chaque fois je me bats avec moi-même. Ça, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que chaque fois je pense, je dis voilà, j'ai un Yetzer Hara, il m'envoie une pensée, je l'ai repoussé, donc je me bats avec moi-même. Et donc je me dis, à quoi ça sert de se battre 25 000 fois avec la même personne? Ben maman, il y en a marre. Yannimara HaZaken va dire un très très grand chidouche. Écoutez bien, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il a dit, alors là, on va prendre la page, la page 21. Ubechol tria ou tria. Chaque rejet, shematré ou mimarchefto, par chaque rejet qu'on repousse, donc une mauvaise pensée de son esprit, ikafia sitra ahara le tata, la sitra ahara fléchit ici-bas. C'est quoi la sitra ahara? Sitra ahara, c'est les forces du mal. C'est-à-dire que moi, je crois que quand je me bats avec mon Yitzhara, je me bats personnellement. Ça me concerne à moi. Je me bats avec mon petit Yitzhara, ma pensée, deux femmes, etc. Et je repousse. Je dis pas du tout. Chaque fois que je me bats avec mon Yitzhara et que j'arrive à repousser mon Yitzhara, je repousse un peu plus le mal du monde. Je repousse le mal du monde. Autant quand je fais une mitzvah, j'amène du bien dans le monde, autant quand je me retiens de faire une avera, je repousse un peu plus les forces du mal du monde. J'enlève le mal du monde. Quand ma chair viendra, il n'y aura plus de mal du tout dans le monde. Ça veut dire que le fait de me retenir de ma petite pensée, ça a un impact planétaire. Ça a un impact sur l'univers entier. Ça fait en sorte que le mal s'écarte un peu plus du monde. Quand je fais rentrer le mal en moi, eh ben je fais rentrer le mal dans le monde. Quand je pousse le mal de moi, eh ben quelque part, je l'enlève un petit peu du monde. Parce que comme il y a un endroit dans le monde dans lequel il n'est pas rentré, eh ben je l'ai poussé un petit peu. Parce que quand tu te sors du monde, ben tu te sors. Il y a un endroit dans le monde dans lequel il n'est pas rentré. Ce qu'il dit ici, Edmond Zaken. Et donc il dit, avec ça, il faut se dire qu'il ne faut pas se déprimer. Il faut dire, mais attends, mais finalement, qu'est-ce que ça change? Je me bats 25 000 fois sur la même chose. Qu'est-ce qui va se passer si une fois je vais tomber? Il va rien se passer. Il dit oui. Parce que toi, tu crois, que les 25 000 fois, c'était le même challenge. À chaque fois, le même challenge, les mêmes femmes, les mêmes objets, les mêmes pensées. Tu dis non. Ça, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois que tu es en train de te battre. Mais derrière ce mobile que tu es en train de te battre, en vérité, derrière ça, je suis en train à chaque fois de repousser le mal. Et donc, même si tu t'es battu 24 999 fois, et ben, la 25e mille fois, tu vas repousser encore un peu plus le mal. Chaque fois est importante. Donc là, on commence un petit peu à comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu veut qu'on se batte contre le mal. Je dis un petit peu, parce que on n'a pas encore répondu à la question, c'est la question de Michael. Et là, déjà, on commence à comprendre que Dieu, la volonté qu'il a, c'est que chaque fois que je me bats avec le mal, chaque fois que je me bats avec une avéra, je repousse les forces du mal du monde.
Est-ce que si tu laisses gagner une fois, tu ça te permet d'être, comme on l'a dit sur le truc, de finalement, il attaque moins souvent. Sur 10 000 fois, peut-être qu'il va être moins insistant.
Ça veut dire qu'il a réussi à gagner, donc il a ouvert une brèche.
L'appétit vient en mangeant.
Quand tu ouvres une brèche, c'est pour aller plus loin.
Exactement.
L'appétit vient en mangeant. Plus on s'affame, et mieux ça marche. Plus on se rassasie, et mieux on a plus en avant. C'est comme ça. Plus on mange, plus on en avant. C'est comme ça. Alors il dit, dans les mots, il dit, ouvrechol tria ou tria, shematri ou marshafto, id kafia sitra hara le tata. Ouve itaruta dil tata, itaruta dil ela. Mais là, il va rajouter encore autre chose. Il va dire, c'est extraordinaire ce qu'il va dire, Jim. Non seulement que quand je repousse le mal ici, le mal de mon corps, je repousse le mal du monde entier. Mais il y a un principe qui dit, bitaruta dil tata, itaruta dil ela. Que suite au réveil d'en bas, vient le réveil d'en haut. Je vais illustrer ça par une idée sur le mois des Louls. Je dis comme ça, le mois des Louls, et Loul, c'est les initiales de Annie, Ledodi, Vedodi. Annie, Ledodi, Vedodi, Lili, c'est-à-dire moi, je vais vers mon bien-aimé, et mon bien-aimé vient vers moi. Qui c'est qui parle? C'est l'Assemblée d'Israël, donc c'est la femme, qui parle à Kadosh Baruch Hu. Et toujours la question entre le mari et la femme qui défend le premier pas. Est-ce que c'est la femme qui fait le premier pas vers le mari, et après le mari revient vers elle, ou est-ce que c'est le mari qui fait le premier pas, et après la femme revient? Et là, il y a la différence. Dans Shir HaShirim, vous remarquerez, une fois c'est écrit Anil et Dodi et Dodili, et une autre fois c'est écrit Dodili va
Anilo.
Une fois c'est écrit moi, la femme, je vais vers mon bien-aimé et mon bien-aimé revient vers moi, c'est-à-dire que c'est la femme qui est le premier pas. Et une autre fois c'est écrit Dodili va Anilo, mon bien-aimé est venu vers moi, le mari, Dieu est venu vers moi, et après moi je viens vers lui. Qu'est-ce qu'il explique là de Morazakan dans l'écoute Torah? Il dit ça, c'est la différence entre le mois des Louls et à partir de Rosh Hashanah. Le mois des Louls, qui c'est qui fait le premier pas? Dieu, il t'a rien demandé encore. Officiellement, il n'y a rien qui a commencé maintenant. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de chauffeur, on fait le chauffeur comme ça, et pas de mitzvah. Qui c'est qui fait le premier pas vers Akadosh Baruch Hu? C'est nous. Alors, nous, quand on fait le premier pas, Akadosh Baruch Hu, il revient vers nous. Mais quand va arriver Rosh Hashanah, qui c'est qui fait le premier pas? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il amène sa royauté dans le monde, et là, après, nous, on revient vers lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il y a une dynamique qui est dans le monde que Beitaru t'a dit tata, Itaru t'a dit Ela. Suite au réveil d'en bas, vient un réveil d'en haut. Suite au réveil de la femme, suite à l'appel de la femme, vient la réponse du mari. Tu dis, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le mal d'en bas, il y a le mal d'en haut. Quand moi, je me bats contre une petite pensée dans mon corps, et que je l'arrive à la repousser, qu'est-ce qui se passe? Je repousse le mal de mon environnement. Donc je repousse le mal de ma personne, de ma famille, de mon environnement. Je repousse un peu le mal du monde. Suite au réveil d'en bas, le réveil d'en bas appelle le réveil d'en haut. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais tu sais quoi? Puisque les hommes ont fait un effort pour repousser le mal, moi aussi je vais repousser le mal. Tout ça grâce à quoi? Grâce à une petite pensée de femme que moi j'ai repoussée. on se rend pas compte les répercussions que peut avoir un effort qu'on va faire. Seulement, non mais ça, là le chidouche qu'il y a, c'est que le Morazakel nous apprend à avoir large.
Le bat bordel.
Moi, je crois que je me bats qu'avec moi-même. Je lui dis bon, finalement, toute ma vie, j'ai pensé qu'à moi. Il dit pas du tout. Il dit toi, Dieu, il a voulu que ça passe, ça parle de toi, donc je parle de moi. La pensée, je la repousse, etc. Mais chaque pensée que je repousse, d'abord, je repousse le mal du monde. Et en plus, quand je fais ça, alors c'est un appel de la femme vers le mari. Alors le mari, claque toujours, il dit bon, la femme, elle a repoussé le mal. Allez, moi aussi, je repousse le mal.
Retenu le temps, c'est le mois de
date
pour
les femmes, un
mois et nous
11
mois, c'est elle de faire des
efforts. J'ai pas dit ça, moi.
C'est,
ouais. C'est écrit que lorsque ma chère va venir, c'est écrit Eshetraï la Teretbal. C'est écrit que lorsque ma chère va venir, la femme sera plus forte que le mari. Et puisqu'on est dans la période pré-messénique.
Elle l'est déjà.
Voilà. Puisqu'on est dans la période pré-messénique, c'est pour ça que les femmes progressant viennent au même niveau que les hommes. Seulement. Malheureusement, ça souvent, ça, ça a souvent mal été utilisé. Mais il y a du bon dans ça. Par exemple, vous prenez un siècle, les femmes n'étudiaient pas la Torah. Aujourd'hui, aujourd'hui, les femmes étudient la Gemara. Dans les séminaires de femmes, étudient la Gemara aujourd'hui. C'est la Gemara. Alors au début, ça fait un peu bon. Parce que bon, il y a des Gemarotes qui parlent de ça et tout. Mais bon, c'est pas simple. Bon, on s'apprend. Mais dans les séminaires, on apprend la Gemara.
Pas tous,
Même si c'est pas la Gemara, mais bon, même ceux qui disent qu'ils apprennent pas la Gemara parce qu'ils veulent pas dire le mot Gemara, mais ils apprennent des choses très profondes de la Torah.
Oui, oui,
ce qui était impensable il y a un siècle. Impensable! Impensable!
Plus bâti que nous, alors plus lent que nous.
Moi je vous dis, des fois je donne cours aux femmes, ils posent des questions, des choses que. Des choses très puissantes. C'est-à-dire qu'ils sont très instruites, des femmes très très instruites. Ici. D'accord? Seulement, c'est quoi le pshat? C'est ce qu'on a expliqué. On a expliqué que, bon, je reviens à notre idée, c'est que l'appel de la femme fait l'appel du mari. Quand la femme, donc des fois c'est le mari qui ne promet pas, des fois c'est la femme qui ne promet pas. Là, quand moi, âme Israël, qui représente la femme, je ne promets pas de repousser le mal qui est en moi, et bien Dieu il dit moi aussi, je vais enlever un petit peu plus le mal. Et comme ça progressivement, on rajoute une pierre, on repousse un peu plus le mal, et avec ça ma chère revenir. Ça c'est pour nous montrer l'impact planétaire. Moi, les kayem hachekatouv, im takbiha kanesher. Que Akadosh Baruch Hu, il te dit, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? Il dit que même si toi et ça, le mal, les forces du mal, il va s'élever comme un aigle, ça veut dire qu'il va s'élever, Akadosh Baruch Hu, tout ça, c'est un ballon. Il met un petit trou d'aiguille, file, tout s'explose. Nous, quand on voit le mal autour de nous, on se dit, mais comment c'est possible? Comment ça s'arrêtera? Faut pas s'angoisser. Faut savoir que Dieu, en temps et en heure, il repoussera, il enlèvera le mal de ce monde. Et ça veut dire que, le fait, dans les gens, ils n'arrêtent pas de dire, mais comment le mal de ce monde, Ahmadinejad, etc. Tu sais comment tu enlèves Ahmadinejad? Quand je vais enlever la pensée d'une femme qui vient dans ma tête. C'est un ridouche. Hein. Comment on va régler le problème du monde? Parce que finalement, tu peux parler de tout ce que tu veux, l'Iran. Moi, je veux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Iran, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Iran? Je peux rien faire du tout.
Oui, mais
vous connaissez pas la blague? Une fois, il y a un mari, sa femme, elle n'arrête pas de lui parler. Il y a des trucs, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pas fait, etc. Et le mari, il se lui casse les pieds. Alors, il dit à sa femme, il lui dit, mais, tu vois, arrête de me parler des petites choses comme ça, les petites choses, les courses qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et qu'est-ce qu'elle a acheté, le brushing, etc. Il dit, parle-moi des choses importantes. Alors, la femme lui dit, mais c'est quoi les choses importantes? Il dit, je sais pas, parle-moi de la paix au Moyen-Orient, parle-moi de, mais la femme lui dit, mais qu'est-ce que tu vas changer à tout ça, toi? Ça veut dire qu'en vérité, nous, des fois, on croit qu'on va penser à des choses extraordinaires, mais la solution commence ici. Quand moi, je repousse mon Yitzhara, je suis en train de changer le monde. On change le monde, mitzvah par mitzvah. Voilà. Donc déjà, quand on entend ça, bon, déjà, déprimé, on n'est pas déprimé. Mais bon, là, je m'arrête ici en plein milieu, parce qu'il faut qu'on développe la suite encore, pour la raison d'être Bessimra. Et on n'a toujours pas répondu à la question de Michael, on a commencé à répondre.
Mais on ne peut pas répondre d'accord. À la question.
Si, il y a une réponse, t'inquiète pas. La question de Michael, à savoir.
La question de Michael, c'est il y a que Akadosh Baruch Hu qui l'a
collé. Ta question. Il y aura un début de réponse dans ce chapitre. Ta question, c'est la question de Job. Job, il a posé la question. Barat atzadikim, barat arishaim. Il a dit pourquoi tu as créé des gens conçus pour être rachat? Pourquoi, en d'autres temps, pourquoi tu as créé des gens conçus pour se battre toute leur vie? On aura un élément de réponse prochaine. On a commencé à répondre aujourd'hui. De dire que chaque fois que je repousse un petit peu, je change le monde. Mais on n'a toujours pas répondu, qu'est-ce que Dieu il a de ça? Ça, on va voir la semaine prochaine.
C'est un échange. Différemment. Qu'il y a eu,
le tzadik, pour changer le monde, il doit faire du chiffre.
Il ne change pas 1951.
le tzaddik qui doit faire du chiffre. Nous, on fait pas de chiffre.
Mais
si tu veux, c'est comme tu sais, dans la Dalai, c'est comme une chaîne. C'est-à-dire que moi, je tourne une petite roue, mais cette petite roue, en vérité, d'accord, tourne des grosses roues derrière. Et ça, on n'a aucune possibilité de savoir parce qu'on ne voit pas les roues. Mais ma petite roue à moi change. Ça, c'est une belle image, hein, comme dans les usines. La petite roue que je tourne, d'accord, le petit cran que je tourne, finalement, va tourner.
C'est un engrenage.
Des montagnes, c'est un engrenage. Avec ça, on peut tout faire tourner le monde.
Donc on t'a répondu à l'échelle. Mais il avait dire à l'échelle
intellectuellement une bonne
déprime.
De la Torah, même s'il était à l'échelle personnelle, mais il en avait la portée. On ne doit pas être déprimé si on
voilà.
a des.
Bien sûr, 100%. Bien sûr.
Comment t'as répondu ça en disant que chaque mauvaise.
Bah plusieurs points. D'abord, c'est.
Chaque mauvaise pensée que je repousse, quand je parle de la dernière truc, chaque mauvaise pensée.
Attention, d'abord, on n'a pas précisé. C'est les pensées qui viennent à quel moment?
Au moment du travail.
Voilà, parce que le moment de la tefila, on n'a pas encore parlé de ça.
Chaque mauvaise pensée que je repousse, je repousse le mal du monde.
Voilà. D'accord. Donc ça, c'est au niveau. Non, d'abord, je fais une mitzvah.
Je fais une mitzvah, je repousse. Ça, c'est au niveau personnel.
Non, justement. Non,
ça a une portée.
C'est une portée sur le monde entier.
Oui, mais moi, je suis le seul à repousser. Mais je sais qu'autour de moi, il y a 25 000 personnes
qui repoussent. Ça change rien.
Pas forcément. Donc le mal est beaucoup plus important.
D'abord, qu'est-ce que t'en sais?
Le mal qui arrive au monde.
Oui, mais c'est pas un pour un. C'est pas un pour un.
Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais rien.
C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu as une mission.
T'en sais rien.
Tu peux pas parce
que moi, tu sais c'est quoi le problème? C'est que nous, on voit les gens hein, quand ils fautent. Mais on voit pas le nombre de fois qu'ils sont retenus pas fauter.
C'est ça.
Quand tu dis, regarde celui-là, les bêtises qu'il a fait. Mais peut-être que moi, ouais, une fois que je fais une avia la vera, ça vaut 100 fois lui, parce que lui, il s'est retenu 1000 fois.
En Égypte, on était combien?
Ça, c'est chapitre 31, ça. Chapitre 31, ne pas juger. Mais ça, on y arrivera pas déjà. Le fait de pas juger les autres, etc. C'est un très très beau chapitre.
Juger voilà. Avec
ah oui, parce que finalement, on peut pas juger un autre si on n'est pas à sa place.
Impossible.
Voilà, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Je n'ai pas prié.
Moi, j'ai pas prié.
Combien on est?
Plus que 6.
Moi aussi, je n'ai
pas prié. Bon, on va prier alors. On est Midian, je crois, non?
Non.
On est
11.
On a besoin de Midian alors, on va faire tout de suite. Allez.